Les Latinos de New York cherchaient une musique à laquelle ils pourraient s'identifier. Et notre musique leur parlait. Pas uniquement la mienne, mais celle de tous ces musiciens novateurs de New York. Ils ont dit ça, c'est à nous, et on va appeler ça la salsa.
When we would have our jam sessions and the police would come, you know, and for a illegal assembly, blah blah blah, and okay, we'd stop and you know they'd leave and we'd start again.
France Culture, la série musicale. Hey! Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les styles, de tous les récits. Une heure de radio sur la musique. En musique, c'est la série musicale. Bienvenue. Et sur cette petite salsa magnifique qui n'a que 2 ans à peine, on ouvre le 2e épisode de notre série. La véritable histoire de la salsa, une série à nos yeux complètement nécessaire, dont on a la sensation que les Français connaissent finalement extrêmement mal ce genre, voire le méprisent, sans doute par ignorance en tout cas, c'est ce qu'on va imaginer. Où est-elle née la salsa? Comment? De qui? Et de quoi parle-t-on vraiment? Les plus initiés, ou en tout cas ceux qui se considèrent comme initiés, citeront peut-être la Colombie, le Venezuela, Porto Rico. Les plus fins, nous parlerons évidemment de Cuba, mais tous auront tort puisque la salsa est bel et bien née à New York au tournant des années 60 et 70, dans peu ou prou les mêmes quartiers qui verront émerger 10 à 15 ans plus tard un autre genre majoritaire qui a lui aussi eu un destin extrêmement vif, c'est-à-dire le hip-hop. Il est vrai, ensuite, elle sera adoptée, développée et vivra ses plus belles heures, et vit aujourd'hui ses plus belles heures plutôt ailleurs. Mais si nous sommes si mal renseignés, en France en tout cas, c'est peut-être parce qu'il nous manquait cet ouvrage mythique, Bible de Salsero et d'une bonne partie du monde latino-américain. Le livre de la salsa, c'est le titre de cette déclaration d'amour et récit fou de sa naissance. Une espèce d'anthologie écrite par le journaliste vénézuélien Carlos Miguel Rondon est parue en 79, c'est-à-dire 10 ans à peine après la naissance du genre, qui paraît enfin en France 45 ans plus tard, traduite brillamment par Maxime Bisson aux éditions Alia. Un livre qui raconte merveilleusement bien comment la salsa, certes, existait avant la salsa. Vous connaissez sans doute le mambo, le son de montun ou le cha-cha-cha, la pachanga ou le bougalou, qui sont des genres venus essentiellement, c'est vrai, de Cuba et de Porto Rico, et qui, des années 40 ou 60, vont imposer la musique latine, non seulement aux États-Unis, mais dans le reste du monde. Et c'est bien à la fin des années 60, au tournant des années 70, avec la création d'un petit label mythique, Fania Records, que la salsa émerge de la rencontre folle entre immigrés portoricains, cubains en exil, jazzmen blancs et juifs du Bronx à New York, le tout sur fond de revendications sociales et de lutte contre les discriminations raciales, une épopée qui va faire vibrer New York, le monde entier, pendant au moins une bonne décennie, avant finalement de se diversifier, de s'éclater, et dont on vous propose une évocation forcément subjective et comme toujours non exhaustive, croyez-nous, on en souffre, dans la série musicale sur France Culture.
Servía, oye tú que decías que ya no salías. Ahora mismo mi amigo.
Vous m'entendez claquer des doigts car c'est irrésistible, Sonny No Bestial, ce son bestial. Ricardo Rey au piano, Bobby Cruz à la voix. Vous êtes typiquement en face de l'un des sons les plus importants de l'histoire de la salsa, on est en 71. Et ces deux compères racontent extrêmement bien ce qui se passe à New York. La semaine dernière, j'avais évoqué avec vous l'extrême richesse des sons dits de Latin Jazz qui ont commencé à exploser à New York des années 30 jusqu'à, disons, les années 60 avec toute cette population latino-américaine qui vit entre New York et les Caraïbes. Comment tout cela s'est évidemment mélangé aux grandes traditions des jazzmen. Cap Calloway, Didi Gillespie n'ont pas été étrangers au développement de ces grands big bands de jazz. Là, ce que vous entendez, c'est véritablement de la salsa. C'est un album produit par le petit label Fania Records, lancé fin des années 60 par justement l'une des figures de ce mouvement du Latin Jazz qui s'appelait Johnny Pacheco avec l'avocat qui avait géré son divorce. C'était initialement un tout petit label qui visait à donner une voix, à permettre à certaines des voix émergentes, indépendantes, à l'avant-garde de cette jeunesse new-yorkaise, de cette jeunesse new-yorkaise d'origine latino. Alors là, vous êtes typiquement en face de deux personnages qui incarnent cette génération. Ricardo Rey, dit aussi Richie Rey, et Bobby Cruz, tous les deux ont un prénom très américain. Ils sont tous les deux nés en réalité à Brooklyn. Richie Rey, que vous entendez là, avec ce piano absolument extraordinaire qui va marquer l'histoire de la salsa et cette espèce d'évocation de Chopin, hein, vous l'avez entendu, calé au milieu milieu de cette superbe, de ce superbe morceau de salsa qui respecte toutes les règles de ce qu'on appelle le son mantou, non? Bobby Cruz, Richie Ray, qui a commencé le piano à 7 ans, qui a été formé au Conservatoire de musique de Brooklyn, puis qui ensuite a fait le fameux lycée LaGuardia High School, celui qu'on verra ensuite dans la série Fame. On est vraiment dans un environnement américain et qui, depuis l'enfance, chante avec son ami Bobby Cruz, qui fait ensuite la Juilliard School. Hein. On est vraiment sur des purs produits de l'excellence musicale américaine. Lui s'est fait un nom, une carrière en jouant essentiellement du mambo, en collaborant avec Bud Powell. Et ensuite, s'est incarné dans ce mouvement du boogaloo, qui était un peu la salsa avant l'heure, qui faisait danser la jeunesse nord-américaine et particulièrement les latinos. Dans les années 70, il quitte avec Bobby Cruz New York pour Puerto Rico, pour des raisons professionnelles mais aussi personnelles. Transition extrêmement difficile, ils essayent d'ouvrir un nightclub à San Juan et ça ne marche pas vraiment. Et c'est finalement lorsqu'ils reviennent à New York qu'ils sont signés par le label Fania et qu'ils, d'une certaine manière, participent à ce mouvement d'invention, de création de ce qu'on appelle maintenant la salsa, la sauce. Alors c'est évidemment ce que nous raconte César Miguel Rondon dans son extraordinaire livre de plus de 600 pages, le livre de la salsa. La salsa aurait pu s'appeler absolument n'importe comment, ça aurait pu s'appeler azúcar pour sucre ou calor pour la chaleur, puisque la salsa c'est uniquement la sauce, une espèce d'interjection que les chanteurs, les danseurs surtout, ne cessent de lancer en jouissant de ce grand mouvement. C'est donc la salsa qui naît parmi les autres figures de proue de ce petit label. Il y a Larry Harlow, lui est un juif de Brooklyn, il va devenir l'un de ceux qui vont construire ce genre. Il a un surnom chez les salseros, El Judio Maravilloso, le juif merveilleux, tant et si bien que encore aujourd'hui, certains n'imaginent pas qu'il n'est pas lui-même latino. Vous l'écoutez ici dans Abran Paso, Ouvrir le pas, avec à la voix Ismael Miranda, l'une des grandes voix de ce label Fania. On est toujours en 71. Larry Harlow, Ismael Miranda, alors étrange figure hein, que celle de Larry Harlow, élevé dans une famille très musicale d'origine juive. Il apprend le klezmer, le piano dès l'enfance, mais il grandit avec son frère cadet dans un quartier où les juifs et les portoricains sont quasiment les seuls habitants et se côtoient. C'est un peu le ghetto à l'américaine. Il suit des cours au lycée d'art et de musique de Manhattan. Il passe par à peu près tous les grands apprentissages de musique classique. Il maîtrise le piano, l'orgue, le hautbois, le cor anglais, la flûte, la basse, prend de très bons cours d'harmonie, se convertit au jazz et finalement, il découvre la musique latine dans Spanish Harlem, hein, ce fameux quartier qu'il fréquente beaucoup, et se dit que c'est vraiment ça qu'il a envie de faire. Ni une ni deux, le voici embarqué pendant les vacances de Noël à La Havane, à Cuba, où en fait, il va revenir pendant presque 3 ans pour étudier de manière quasiment staccanoviste la musique de l'île auprès des véritables vétérans de Cuba. C'est ça qui est intéressant, c'est que Larry Harlow a beau être américain, c'est celui qui suivra la ligne, disons, la plus typique de cette salsa qui est en train de naître, alors que près de lui se trouvent des jeunes portoricains, américains, vénézuéliens qui vont tenter d'être un tout petit peu plus innovateurs. La question n'est pas là, c'est à lui qu'on doit le repérage donc, de ce jeune chanteur Ismael Miranda qu'il avait repéré en 67 et qu'il fait jouer avec lui. Il fait partie des tout premiers artistes, puisqu'il est déjà quelqu'un qui compose et qui produit de la musique latine, il fait partie des tout premiers artistes signés par le fameux label Fania, créé en 67. Il nous raconte ici comment le label Fania explose en signant toute une série de jeunes talents, puis en organisant en 1971 un concert dans un petit club, le Cheetah Club, en réunissant tous les artistes dont le label a obtenu la signature. Écoutez-le. Dans les années 60 à New York, c'était un moment très révolutionnaire. Il y avait le mouvement des droits civiques, il y avait Woodstock, le Vietnam, sex, drugs and rock'n'roll. Tout ça existait, était très fort aussi dans la musique. Et donc Fania a commencé à s'agrandir, à signer des gens comme Willie Colon, Bobby Valentine. On est devenu de plus en plus gros et on a décidé de faire un band all-star, c'est-à-dire de réunir tous ces orchestres. Il y en avait au moins 7, avec tous les sidemen, tous les musiciens, tous les chanteurs. Et on a décidé d'enregistrer ce bel album dans la salle Cheetah Club et d'en faire un film pour essayer de garder une trace de cette belle soirée qui allait tous nous réunir. Mais le propriétaire du Cheetah nous disait « Mais personne va venir un mardi soir. » Et en fait, il y avait une queue qui durait plus de 5 blocs. Tout le monde voulait rentrer pour voir ce moment magique avec tous ces espèces de héros en réalité de l'époque. On a enregistré ce concert, on en a fait un film. Évidemment, tout prenait du temps, donc on a mis plus d'un an et demi à finir le montage. Et on a sorti ce film, Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, Notre Chose Latine. Ça a été un énorme succès. On est passé de 2000 disques vendus à 200 000 disques vendus. C'était una noche inolvidable, une nuit inoubliable. Vous écoutez Elia Fue, She Was The One, une chanson à la fois en espagnol et en anglais. Alors là, on est sur le Fania All Stars, non pas de 71, mais de 78, car ce groupe qui réunit en fait les 7 orchestres et tout, donc les sidemen, tous les chanteurs, signé par le label Fania, va vivre longue vie. Disons qu'il y aura 10 ans de très bonnes factures avant un écroulement, mais on y reviendra. Fania All Stars, c'est en fait un énorme succès et donc toute une série de jeunes musiciens, de petites formations qui tentent des innovations musicales, plus de place au conga, plus de place au trombone, éviction totale de la batterie, mais aussi des saxophones dans cette musique qui était vraiment en gestation, va du coup vraiment lancer ce genre qu'est la salsa. L'incarnation évidemment dans ce film, La Nuestra Cosa Latina, qui fige d'une certaine manière ce mouvement, dit qu'il existe en tant que tel. Et donc évidemment formé par toute une foule de talents, il y a Larry Harlow, il y a aussi évidemment Willie Colon, vous l'avez entendu dans l'émission de la semaine dernière, c'est sans doute l'un des plus jeunes chefs de section de ce Fania All Stars et l'un des plus grandes figures de ce label. Il a à peine 21 ans à l'époque, il a commencé à 17 ans, il a déjà beaucoup marqué les esprits. Si musicalement il n'était pas tout à fait au point à 17 ans, néanmoins tous les adolescents latinos new-yorkais s'identifient à lui. Au fur et à mesure, il affine son style et c'est surtout sa grande relation d'amitié avec celui qui va devenir d'une certaine manière la figure mythologique grecque de ce mouvement de la salsa, à savoir le chanteur Hector Lavoe, et une voix sublime, une capacité à faire le récit des choses qui va marquer durablement, d'autant plus que Hector Lavoe nous quittera bien trop jeune, à moins d'une quarantaine d'années, ce qui fera de lui d'une certaine manière le martyr de ce mouvement. Il n'empêche que Willie Colon le dit, ce qui fait qu'il plaît et qu'il est engagé à l'époque, c'est qu'évidemment, sa musique a une portée profondément politique, comme il le racontait dans les années 80.
Especially in New York.
À New York en particulier, ce qu'on appelait la salsa avait en réalité des racines politiques très fortes. Tout ça se passait quand même en même temps que la lutte pour les droits civiques. Il y avait Martin Luther King et ses partisans qui marchaient dans la rue, et nous on était là. Quand on faisait nos jam sessions dans la rue, la police arrivait, nous accusait de l'assemblée illégale, ils nous prenaient nos tambours, on recommençait, ils revenaient, et là ils nous tapaient sur la tête.
And then the next time, and now I'm gonna bang one of you guys on the head. And we just kept going back. So, you
know, the music évidemment, la musique était une forme de résistance politique.
Cambiará, oye verás. tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Sufrirá parte de mi vida ya. Que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin jockey.
Bientôt viendra mon jour de chance, avant ma mère, ma mort, je le sais. Assurément, ma roue finira par tourner. Jusqu'à présent, j'ai enduré ma vie sans aucun complexe d'infériorité. C'est pourquoi je ne me fatigue jamais d'espérer, car je sais que Dieu m'aidera. Et le jour où ça arrivera, écoutez bien, je viendrai en aide au monde entier. Car un jour ou l'autre, vous verrez comment mon jour de chance viendra en beauté. Vous verrez bien, mais quand ? El día de mi suerte, on est en 1973, collaboration entre Willy Colón et Héctor Lavoe sur un disque qui va beaucoup frapper les esprits, qui s'appelle Lo Mato, avec une pochette très emblématique. On voit Willy Colón, donc le maître de cette formation, avec un pistolet sur la tête d'un homme plus âgé en disant « si tu n'achètes pas ce disque, je le tue ». Tout cela évidemment renforce d'une certaine manière les clichés sur la violence associée à ce tout jeune genre. Même si le banditisme est un thème, la violence ne cesse d'être décriée. Même si dans cette chanson-là, ce qui est important, c'est évidemment la notion d'espoir qui est très forte, qui en fait remonte à une très longue tradition du son cubain hein, déjà. Willy Colón s'appuie sur cet héritage pour dépeindre une violence des rues new-yorkaises à travers les rues d'hier, hein, puisque là le personnage est plutôt portoricain, le pays d'origine de Willy Colón. Évidemment, ce disque va être un énorme succès, mais c'est très intéressant de voir qu'en 73, il n'est absolument pas relayé ni par la publicité ni par les radios. Et c'est vraiment ces années-là, 73, où la salsa arrive à créer ce qu'on appelle des succès populaires, c'est-à-dire à vendre beaucoup de disques sans le soutien de l'industrie. C'est à ce moment-là que l'industrie va commencer à prendre conscience de ce mouvement de fond, de cette lame incroyable qu'est la salsa, et lui faire une place aussi bien dans la presse, dans les journaux, que sur les radios. C'est aussi l'une des raisons, et c'est ce que dénonce Rondón dans son livre, qui pousseront à une forme de commercialisation à outrance et une forme de dénaturation de la salsa par le label Fania. Mais c'est une autre histoire, on n'en est pas encore là, évidemment. Il y a un autre moment important, cette année 73, qui survient. D'un côté, on a donc Willy Colón, mais aussi un jeune homme comme Eddie Palmieri, dont on vous parlait la semaine dernière, le Miles Davis de la salsa, qui tente des innovations aussi bien sur le style musical, les instruments qu'il faut intervenir dans leur musique, que dans les propos, dans ce qu'ils racontent, à la fois sur la violence, sur la célébration du barrio, ces quartiers quasiment exclusivement habités par des latino-américains et souvent des ghettos aux États-Unis. Il y a cela, et il y a à côté Larry Harlow, celui dont on parlait tout à l'heure, qui d'une certaine manière tente à faire de la salsa, et en tout cas des morceaux qu'il propose lui, des morceaux de plus en plus aboutis, à les ancrer dans une forme de légitimité. C'est ce qu'il va faire en adaptant un opéra rock londonien qui a extrêmement bien marché de l'autre côté de l'Atlantique, un opéra rock qui s'appelait Tommy et qui racontait l'histoire d'un petit orphelin aveugle qui subissait les pires sévices de la société à Londres, dans le Londres des bas-fonds. Il transpose l'opéra dans le New York des années 60. Alors certains disent, en l'occurrence Rondón, que la transposition de l'intrigue ne fera pas tant de bien que ça à l'opéra. En tout cas, l'opéra s'appelle Homie et non plus Tommy. Il est d'une certaine certaine manière le lieu d'expérimentation de plus en plus inventif de la part de Larry Harlow. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait intervenir, alors qu'on ne s'y attend pas du tout, à la toute fin de l'opéra, une espèce de reine maternelle, une voix de femme qui descend sur l'opéra pour résoudre tous les problèmes, cette espèce de figure maternelle latino-américaine qui va permettre de résoudre l'action, une espèce de Deus ex machina. Et c'est la voix de Celia Cruz qui débarque dans vos oreilles. Et Celia Cruz, qui était donc l'une des plus grandes chanteuses cubaines de son à Cuba et qui venait d'arriver aux États-Unis. Ça faisait à peine 5 ans qu'elle y était. Elle avait fui l'île avec l'arrivée du communisme au pouvoir. Évidemment, elle fréquentait les grandes figures du Latin jazz un peu plus patrimoniales. Elle prêtait sa voix. Mais là, c'est la première fois qu'elle entre dans ce monde bouillonnant et moderne de la salsa. Écoutez-la en majesté. Celia Cruz dans Gracia divine, la grâce divine.
Siento un nunca no puede ser que te pueda amar todo mi querer. Oh mío, mío, como tú no hay otro igual, y en mi alma vivirás como toda una quimera. Lo pude lograr, tan siquiera lo pude lograr, y siempre te de recordar. Quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos. Oh mí, yo soy tu gracia divina.
Entendez toute la richesse de ces traditions qui sont présentes dans ce Gracia Divina. Il y a le son, on est vraiment sur une tradition du son cubain extrêmement forte avec la présence de ces cordes absolument sublimes. Mais il y a évidemment toute la présence des apports novateurs de cette nouvelle génération qui fait de la salsa dans cette écriture de Larry Harlow, donc El Judio Maravilloso, ce juif de Brooklyn qui fait de la musique latine, qui s'est adjoint les services de Marty Scheller. Alors lui aussi l'un des rares blancs hein, de ce mouvement, qui est l'orchestrateur de ce disque homie et qui va rester l'un des meilleurs orchestrateurs de la salsa dans les années qui suivront. Il y a évidemment l'incroyable voix de Celia Cruz. Donc Celia Cruz, c'était la guaracha, celle qui triomphait à Cuba dans la grande tradition typique du son et qui était arrivée fin 60. À New York. Elle avait eu une carrière solo où elle faisait à peu près ce qu'elle faisait, c'est-à-dire du Celia Cruz pur jus, accompagnée par Tito Puente, le roi du mambo, qui avait triomphé la décennie précédente. Et ce qui se passe en réalité ici n'est pas anodin. Elle rentre dans le fameux crew du Fania Records. Elle va d'un coup enregistrer avec Willie Colon, avec Richie Ray, avec Eddie Palmieri, avec Arlo, avec Pacheco. On le verra ensuite. Ce qu'écrit Rondon, c'est qu'évidemment, c'est comme ça que Celia Cruz reste d'une certaine manière la reine, la divine, l'icône de la salsa, ce qu'elle demeura jusqu'à sa mort. Elle est encore considérée aujourd'hui comme le titan, la titanesque guaracha de la salsa. Si les disques qu'elle fait avec Fania Records n'avaient pas été produits, les adolescents amateurs de salsa qui peuplaient New York et qui représentaient de fait une bonne partie de l'audience de cette musique n'auraient jamais pu s'approprier la voix, la présence de Celia Cruz. Elle serait restée comme tant d'autres l'une de ses grandes idoles du passé, une pionnière qui n'avait pas trouvé sa place dans les développements de la musique moderne. Quelle bonne idée de l'avoir fait signer sur Fania Records, où elle va d'ailleurs assez vite enregistrer un nouvel album avec le fondateur du label, à savoir Johnny Pacheco, un disque baptisé Celia y Johnny, dans lequel il réinterprète tout un genre de vieux sonnets, c'est-à-dire qu'ils reprennent des sons cubains, les réintroduisent en fait dans les oreilles de ces adolescents portoricains, vénézuéliens, dominicains qui vivent à New York. Tout cela évidemment se mélange, c'est la fameuse sauce parmi l'un des titres qu'on appréciera le plus, Kimbara, écrit par Junior Cepeda, un vrai cubain. Un enregistrement qui, écrit Rondon, paraît toujours insurpassable. L'habileté, la saveur de Celia pour jouer avec ce qu'on appelle le montuno, ainsi que l'incroyable puissance des arrangements contribue à en faire un morceau d'anthologie de l'histoire de la salsa.
La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se mientras canto un guaguancó, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó.
Les paroles de cette chanson Kimbara s'inscrivent dans la vieille tradition qui consiste à célébrer la musique en lui octroyant une valeur suprême, en la personnifiant dans la vie quotidienne. En fait, dans les paroles, Celia Cruz parle à la musique, elle parle en l'occurrence à la rumba. Et c'est une manière aussi de montrer ce chemin parcouru par cette rumba. Les paroles nous racontent « J'entends la rumba qui m'appelle, bongo, dis-lui que j'arrive, qu'elle attende deux secondes, que là pour le moment je chante un guaguancó, dis-lui de pas mal le prendre parce qu'elle reste dans mon cœur. Et ma vie ne se résume qu'à cela, de la bonne rumba et du guaguancó. » Le tout repris avec des arrangements qui sont véritablement dans les marqueurs de cette nouvelle musique sensation, la salsa, réinterprétation. Alors évidemment, il y a donc des des New-Yorkais pur jus, des gens qui n'étaient pas latinos, évidemment des immigrés latinos. Il y a ces Cubains, ces Cubaines qui sont arrivés de l'île. Il y a aussi, et on n'en a pas parlé la semaine dernière, on devait le faire, des orchestres qui, eux, venaient directement de Porto Rico. C'est le cas notamment de l'une des figures de chanteurs les plus importantes, les plus belles, les plus incroyables, Ismael Rivera, un noir portoricain qui, en réalité, chantait du latin jazz, du mambo, du bougalou dès les années 40-60 avec Rafael Cortijo, lui aussi portoricain. Ils sont tous les deux amis. En toute humilité, je ne suis jamais entrée dans le monde de la salsa, disait-il à l'acmé de sa carrière. Je suis née dans le monde de la salsa. Le fait est que je viens d'un village qui s'appelle Santurce à Porto Rico. Dans la calle, il y avait une horloge et quand je me levais, elle faisait poum, ki poum, ki poum. Et cette horloge s'est en quelque sorte mise à couler dans mes veines. J'avais un truc en moi, c'était la fin. La salsa vient de la fin. Ismael Rivera qui va être d'une certaine manière la voix à laquelle toutes celles qui suivront rendront hommage, à la source de laquelle ils boiront, même si son destin est entravé par le fait que assez vite il se retrouve bloqué à la frontière avec un gros contingent de drogue. Sa carrière est à la fois encouragée par Fania qui d'une certaine manière le traite de plus en plus mal. Une chanson raconte sa difficulté et c'est son passage en prison, Las Tumbas, qui deviendra l'un des plus grands hits de la salsa.
Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breike.
De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasa.
Terrible de devoir couper, c'est incroyable. Las Tumbas, quand sortirai-je de cette prison qui me torture et couvre mon cœur d'affliction? La musicalité, la force dans la voix d'Ismael Rivera qui va être l'une des principales influences, l'un des principaux modèles d'une nouvelle génération de paroliers et de chanteurs. Parmi eux, il y a l'incroyable Ruben Blades, originaire lui du Panama, qui va d'une certaine manière changer le cours de l'histoire de la salsa avec un titre Pedro Navaja de 7 minutes 33 qui sort en 78 et qui change tout dans les paroles. Il nous racontera pourquoi, mais aussi musicalement. À la musique, c'est Willy Colon qui est aux commandes. Dans ce titre, changement du thème de ce qu'on raconte, mais aussi musical, du rythme. Un changement qui a été très controversé à l'époque, comme le racontait Willy Colon dans les années 80 sur ce changement de clave.
Clave is a two-bar phrase.
La clave, c'est une phrase en deux mesures musicales. 2, 3, 3, 2. Celui-là commence sur le deuxième temps. Et si on commence sur le troisième temps, si on les joue ensemble, moi, j'ai commencé à entendre cette clave et j'ai décidé de la retourner. Ça a été très controversé à l'époque. Les puristes me regardaient, roulaient des grands yeux et me disaient « Mais tu peux pas faire ça !» Mais moi, ce que je voyais, c'est que quand je faisais ça, les danseurs adoraient ça. Parce qu'en fait, ils dansaient toujours de la même manière et puis d'un coup, ils avaient l'impression de faire quelque chose de différent parce que je leur donnais la sensation de danser sur un beat différent.
por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán, Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja.
Pedro Navaja, chanson de salsa, paroles, musique Ruben Blades. Au rythme, à l'interprétation Willy Colon, une reprise de La Complainte de Maki qui ouvre l'opéra de Katsu, reprise de cette figure incroyable de Maki, qui est évidemment une figure de truand qui existe depuis le XVIIIe siècle et que Ruben Blades, car c'est comme ça qu'on dit son nom, va plonger dans l'environnement du barrio de New York et nous raconter comment il rencontre une prostituée qu'il tente d'agresser et qui finalement le tue. Un changement total de style, aussi bien au niveau de la musique que de ce qu'on raconte.
Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te
balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
I kept the chord structure.
J'ai décidé de garder la structure de cordes qui ne cesse de monter parce que j'aimais beaucoup ça dans cette chanson que j'avais entendue. J'ai gardé cette tension avec ces demi-tons qui montent à mesure que l'histoire évolue, mais j'ai créé une autre histoire, une autre mélodie. Maki vient de l'opéra des Vagabonds, c'est le XVIIIe siècle. Et puis ensuite, c'est Brecht et Weill qui l'ont repris et qui l'avaient introduit dans l'opéra de Katsu.
I like to live in America.
this other guy, he's just a guy from the street.
Et moi, dans mon espoir, c'est juste un mec de la rue à New York. Et la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette chanson, c'était pour changer la donne, car à l'époque, toutes les femmes étaient victimes dans les chansons systématiquement. Elles étaient attaquées, et dans cette chanson, la femme est attaquée, mais elle se défend. Non seulement elle se défend, mais en plus elle tire sur le type. C'est elle qui a le dernier mot. Elle lui dit « No estás en nada ». Moi qui pensais que je vivais une journée de merde aujourd'hui, tu en as une qui est pire. Ça a été l'un des premiers exemples d'une femme qui est agressée et qui ne se laisse pas faire. Je pense que la phrase « La vida te da sorpresa », la vie nous réserve des surprises, est vraiment ce qui a fait mouche. Parce que c'est vrai, la vie est pleine de surprises. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce gimmick a été le secret pour que la chanson perdure, parce qu'à l'époque, personne ne la jouait à la radio. Elle était trop longue, 7 minutes et demie. Tout le monde l'a détestée.
Pa' martillo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios.
Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón.
La vida te da.
En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios.
Roberto Roena, on est en 76, toujours dans ces mêmes années 70. Roberto Roena, l'une des recrues du Fania All Stars, en fait, il avait intégré la bande en 71, après avoir fondé son groupe Roberto Roena y su Apollo Sound. En réalité, il ne jouait pas si bien que ça, mais c'était un excellent danseur sur scène, ce qui lui permettait de faire bouger les foules. Il va devenir l'une des plus belles recrues du Fania All Stars, vous l'entendez ici avec Mi Desengaño, une figure à la fois humble et extrêmement belle. D'une certaine manière fertile. On ignore qu'il est avec Manu Dibango, le créateur de Soul Makossa, qui d'une certaine manière contribuera à co-créer la disco. Roberto Roena, qui était lui aussi un portoricain pur jus, né dans ce fameux barrio de Santurce. Il est l'une des plus belles voix de ce label Fania All Stars, même si lui aussi, à l'image de tous ceux qu'on a entendus ici, sera de plus en plus maltraité par un label qui, au fur et à mesure, aura le plus à cœur de faire de l'argent, de traiter de plus en plus mal ces musiciens qui finiront par le quitter, d'où une évolution complexe de la salsa, qui devient difficile à appréhender aujourd'hui, mais c'est une autre histoire. On se quitte sur la voix d'un autre de ces jeunes salseros qui émergent dans ces années 70, Oscar de León, qui lui aussi revendique l'héritage de Oliveira dans le chant. Vous l'entendez ici en live lors d'un live mythique au Copacabana à New York avec ce titre où qui, à l'instar souvent des grandes chansons de salsa, vous invite en l'occurrence à pleurer. Llorarás, tu vas pleurer tout en vous faisant danser. Oscar León, l'apport, la révélation vénézuélienne de ce label Fania, né en 43 au Venezuela et qui est devenu l'une des figures majeures révélées par Fania, dit El sonero del mundo, el sonero mayor, el faraón de la salsa, le pharaon de la salsa ou le diable de la salsa. Lui apporte d'une certaine manière une salsa pur jus, extrêmement forte, extrêmement marquée, latine, dont il sera, restera un ambassadeur toute sa vie, tandis que Loewen a l'autre révélation de Fania, de chanteur qui émerge grâce à ce label. Lui est plutôt celui qui introduira des idées, des sonorités de plus en plus psychédéliques. Pas étonnant qu'on le retrouve dans la disco. Tout ceci n'est évidemment qu'un aperçu de ce qu'a été les débuts de la salsa, de ce qu'ont été les débuts de la salsa. On vous invite à acheter cette immense Bible, le livre de la salsa, César Miguel Rondon, paru aux éditions Alia, qui vous donnera envie de voyager, d'écouter et de refaire entièrement votre discographie. On espère avoir fait en partie honneur à ce genre, pense-t-on, trop méconnu. Et qui mérite toute notre attention. Cette émission a été réalisée par Colin Gruel, avec à la technique Anthony Thomasson, Lou Quevauvier, l'attaché de production de la série musicale. Merci mille fois à Daniel Sanchez de m'avoir initié à cette musique splendide. N'hésitez pas à vous abonner à la série musicale sur toutes les bonnes applications, mais on préfère toujours celle de Radio France. À la semaine prochaine.